Bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un volet d'émission qui n'a pas encore de nom mais qui ne saurait tarder à trouver son nom. C'est une émission qui émane d'un projet en partenariat avec la MJC Bel et Bas d'Evreux et plus précisément avec le RIF, ce bar associatif que vous pouvez venir fréquenter bien entendu. Nous sommes donc sur un concept d'émission, d'échange, de débat, de discussion et j'ai envie de dire un petit peu revenir à ce que sont les MJC. Pourquoi dans une MJC ? Parce que c'est tout naturel, les MJC, rappelons-le tout de même, étaient initialement quand même des lieux d'échange et d'échange politique même d'ailleurs. Nous essaierons de rester dans cette ligne afin de pouvoir échanger sur des thématiques. Je remercie d'avance l'émission Pick Up que vous retrouvez d'habitude à cette heure-là qui pour la deuxième fois consécutive nous aura donc lâché leur créneau. Merci beaucoup au professeur Redo et à monsieur Pick Up, bien entendu. Pour réaliser, empaqueter, propulser cette émission jusqu'à vos oreilles, nous avons la chance, que dis-je, l'honneur d'avoir Lily au micro avec nous et puis le meilleur de nos hommes, monsieur Pignon, à la réalisation.
Bonsoir JC, bonsoir monsieur Pignon. Effectivement, nous sommes en direct du RIF où nous vous invitons à nous rejoindre pour cette session débat sur le thème de la pré-COP en bonne compagnie avec tous nos invités.
Alors justement, nos invités, alors il y a la salle déjà qui pourra réagir, voilà. Alors on va pas pouvoir dire qu'elle va faire tout de suite énormément de bruit, mais vous pouvez venir nous rejoindre pour qu'elle fasse beaucoup de bruit bien entendu, hein. C'est au RIF, c'est premier étage, la salle du foyer de la MJC, il suffit d'arriver à la porte, pousser la porte, arriver jusqu'ici, s'asseoir avec nous et échanger, discuter, c'est pas plus simple, ou peut-être même juste écouter si vous voulez juste écouter, bien entendu. Donc pour avancer sur ce fameux sujet de l'après COP 21, nous avons plusieurs invités qui se succéderont à nos micros. Clément Bréciani, Vagabond de l'énergie, c'est l'association Vagabond de l'énergie, nous aurons l'occasion d'en discuter très rapidement tout à l'heure. Dominique Knockaert du collectif pour la transition citoyenne de l'heure. Laurence Flichy, alors également du collectif pour la transition citoyenne de l'heure, mais également de l'association La Vie Nouvelle. Et nous aurons également Robin Branchu de l'association Heure Entreprise. Transition. Voilà, toutes ces associations-là, et notamment le collectif pour la transition citoyenne de l'heure, et bien en fait, c'était les partenaires d'Alternatiba. Vous vous souvenez, en septembre, 12 septembre de mémoire, sur Évreux, se déroulait la grande manifestation Alternatiba, et c'était l'étape hébroïcienne de cette tournée française, et même un petit peu européenne. Il y avait eu des incursions dans des pays à côté de chez nous. Voilà, c'était eux, ce fameux Alternatiba. Aujourd'hui, bah, nous aurons l'occasion, effectivement, d'échanger sur toutes ces questions.
Nous aborderons aussi donc, oui, le sujet de la localité, hein, ce qui est fait aux différentes échelles, hein, agglo, région. Nous parlerons du réchauffement climatique et de ses questions économiques et environnementales. Pour notre troisième partie, il sera question de perspective. Nos politiques seront-ils nos nouveaux héros ? Nous parlerons aussi des prochains rendez-vous et s'il y a une suite, Alternatiba. Mais pour lancer les festivités, notre premier sujet, retour sur la COP 21. Que s'est-il passé ? Quelles décisions ont été prises ? Alors, qui veut commencer pour la petite rétrospective ? Clément ?
Oui, c'est à moi, je crois.
De toute façon, nous vous avons repéré, vous êtes déjà passé régulièrement sur notre antenne. Clément, on a repéré que vous étiez un bon client.
Alors, la COP 21, qu'est-ce que c'est déjà, peut-être ? C'est un rendez-vous des représentants des chefs d'État de 195 pays plus l'Union européenne qui a lieu tous les ans depuis 21 ans. C'est pour ça que là, c'était la 21e COP, qui veut dire conférence des parties. Et donc ça existe depuis 21 ans, tous les États se retrouvent chaque année pour discuter de cette question du changement climatique, du dérèglement climatique, et ainsi essayer de trouver des solutions communes à la planète entière, chose qui n'est pas une mince affaire, on le conçoit.
Et puis c'est aussi que tous les États arrivent à s'entendre. Enfin, la politique, la géopolitique au quotidien nous démontre bien que c'est pas toujours évident entre États de s'entendre sur un tas de questions. Et notamment la question environnementale qui pourrait paraître simple finalement a beaucoup d'ancrage dans d'autres éléments, d'autres thématiques de la politique. Je voulais revenir deux petites secondes parce qu'en préparant cette émission, on a eu des échanges avec pas mal d'entre vous autour de cette COP21. On aurait la sensation, tout le monde aura sa sensation en tout cas sur ce qui s'y est passé et si c'est satisfaisant. Mais moi, j'étais assez étonné en préparant cette émission de tomber sur un compte-rendu officiel d'État, le compte-rendu du Conseil des ministres du 16 décembre 2015, quelque chose de relativement officiel. Hein, j'ai envie de dire, c'était peut-être même le premier bilan officiel. Et j'étais assez étonné. Pour un bilan, je m'attendais à quelque chose, un dossier de 25 pages. Enfin, c'est l'État quand même. J'imaginais qu'il allait avoir un dossier de 25 pages. Et finalement, j'ai un truc qui tient assez simplement sur mon smartphone que j'ai devant moi. Donc, je vous passe l'introduction où ils sont contents de communiquer là-dessus. Mais globalement, sur le corps, je me permets d'en faire une petite lecture et peut-être même pour en avoir des explications. La COP21 s'est conclue le samedi 12 décembre par l'adoption par consensus de l'accord de Paris. Cet accord est composé d'un préambule et de 29 articles, dont on n'aura pas le détail là-dedans. L'accord de Paris est un accord universel, juste et différencié, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant. Je vais juste revenir sur cette petite partie juridiquement contraignant. C'était un petit peu ce que reprochaient les ONG et les associations qui œuvraient sur ce terrain-là, qu'il n'y ait pas de contraintes. Quelles ont été concrètement les contraintes? Parce que je n'ai pas réussi à les trouver dans la suite de cette déclaration.
Alors, les contraintes, autant que j'ai pu en comprendre, parce que ce n'est pas si simple que ça de comprendre. Je crois que c'est contraignant parce qu'ils se sont obligés à se revoir régulièrement et à se donner, enfin, se dire où ils en sont dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Parce qu'ils se sont quand même tous mis d'accord pour dire oui, effectivement, il y a un réchauffement climatique et il faut qu'on le combatte. C'est déjà quelque
chose.
Mais
ça, c'est pas de la COP21 quand même. Ils le savaient déjà avant, non?
Eh bien, il semble qu'ils n'en étaient pas tous persuadés et que c'est une des remarques, enfin, un des acquis de cette COP21. Donc, ce qui est contraignant, ça ne l'est pas tant que ça, finalement. C'est qu'ils vont se revoir et qu'ils sont obligés de se donner, rendre des comptes les uns aux autres.
Et alors, c'était pas l'objectif des COP précédentes, du coup, de se rencontrer pour se donner des objectifs et faire le bilan, justement? Enfin, je me permets d'être très naïf, peut-être, dans ces questions, mais il me semblait que ça servait à ça, justement, la COP.
Ça servait à ça.
Je crois que c'est la première fois que, dans une COP, il y ait autant de pays réunis. Si je ne m'abuse, les 195 pays plus l'Union européenne, je crois que c'est la première fois que ça arrive dans une COP.
C'est-à-dire qu'il y en a qui ne venaient pas et ne se faisaient pas représenter.
Ils ne se faisaient pas représenter. Alors après...
Ça, c'est une victoire déjà, non? Enfin, pour des associations qui militent en local notamment et bien au-delà d'ailleurs à travers les réseaux. C'est une victoire, ça, non? Au bout d'un moment, tout le monde soit là.
Ça, c'est très positif, effectivement. Là-dessus, on ne peut pas empêcher le fait qu'il y ait eu autant de pays qui soient venus et qui arrivent ensemble à une résolution commune. Ça, c'est une victoire pour les médias et pour le gouvernement. Par contre, si vous lisez le document officiel, qui fait plusieurs pages...
Alors, ça veut dire qu'il y a un document... Je suis encore peut-être très naïf, mais ça veut dire qu'il y a un document officiel de la COP21.
Absolument.
Ça veut dire que ce n'est pas chacun qui fait sa communication sur le truc, il y a un document officiel. Alors, qui préside cette COP21, du coup? Je me permets juste en parenthèse.
C'est Laurent Fabius.
D'accord.
Je pense que c'était Laurent Fabius.
C'était Laurent Fabius.
C'était Laurent Fabius. Alors ce document, si vous n'êtes pas accompagné d'avocats, de conseillers en droit international, vous n'y pipez que dalle. Moi ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu de la COP21 un texte qui soit en langage courant et qui soit officialisé par la COP21.
Après, une histoire de COP21 pour les nuls, un truc comme ça, qui expliquerait pour les gens qui n'ont pas forcément de prérequis.
Pour ceux qui n'ont pas de connaissances en droit international, par exemple.
Ce serait pas mal, oui.
Ce serait pas mal.
La COP21 pour les nuls, c'est une bonne idée.
Oui, oui. C'est peut-être un projet qu'on va retenir pour ici. Et puis, donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, tu as lu une déclaration.
Un extrait seulement
du gouvernement. Mais chacun puise dans ce document les éléments qu'ils souhaitent en retirer. Alors, pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait plus de contraintes que le fait qu'ils se réunissent pour la COP22, par exemple.
Oui, tout à fait, parce que je voulais dire aussi que ce qui ne les contraint pas, c'est le financement. Or, si on n'est pas contraint dans le financement, ma foi, quelle est la valeur de la contrainte ? C'est-à-dire que pour les financements, pour aller dans le sens et pour aider les pays qui sont en voie de développement, ils peuvent revenir dessus. Ce n'est pas du tout aussi contraignant qu'on pourrait le penser.
Du document officiel qui est sorti du Conseil des ministres, j'avais, et je lis juste ce petit paragraphe, il fixe pour objectif de contenir la hausse des températures bien en deçà de 2 degrés et de s'efforcer à la limiter à 1,5 degré. Déjà, rien que dans cette phrase-là, alors peut-être qu'il y a des spécificités linguistiques ou scientifiques qui m'échappent, mais voilà, on se dit on ferait bien 2, mais si c'est un 5, on est content, c'est ça l'idée ?
C'est un peu ça. On était parti sur 2 degrés. Ça fait des années qu'on entend parler de ces fameux 2 degrés. Et c'est, si je ne me trompe pas, François Hollande qui a annoncé cette barrière de 1,5 degré. Je pense que c'est avant tout médiatique, enfin avant tout, oui, de la communication, quoi, enfin, clairement. Mais donc, si on interprète un peu cette phrase, pour moi, ça veut dire exactement ça, ouais, entre 1,5 et 2 degrés. 1,5, ce serait mieux. 2, c'est acceptable quand même. C'est comme ça que je l'entends.
Oui, alors moi je lisais aussi, là, justement, avant de venir à l'émission, qu'en fait, il y a quand même les pays qui ont dit, ben voilà ce qu'on va faire. Alors, ils ont déjà dit, avant de venir à la COP21, ils avaient quand même travaillé auparavant, et ils ont dit, ben voilà ce qu'on va faire pour lutter contre les gaz à effet de serre. Et si on prend toutes les mesures qu'ils ont dites, on est déjà à 3 degrés. Donc c'est-à-dire qu'ils prennent comme objectif, on va... rester en deçà des 2 degrés, mais en fait, si on continue sur la lancée, on est déjà à 3 degrés. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup...
Alors 3 degrés en combien de temps ? Pour ceux qui ne sont pas au jus, par exemple, c'est quoi l'échelle de temps qui est annoncée pour les 2 degrés ou les 1,5 ou les 3 degrés ?
En fait, c'est par rapport à quoi ? C'est par rapport à l'ère industrielle, au début de l'ère industrielle. Donc c'est pas par rapport à il y a 10 ans, quoi, c'est par rapport à 1900, 1800, 1850,
le 19e siècle. Après le développement du pétrole. Et
C'est là où on a vraiment commencé de toute façon à émettre des gaz à effet de serre. Là, on peut quantifier l'évolution qu'il y a eu et la corréler avec les gaz à effet de serre.
Alors ça, c'est le point de départ. Et le point d'arrivée où on dit on a fait ou on n'a pas fait les degrés, ce sera quand ? Enfin, l'échelle, du coup, va jusqu'à quand ?
C'est bien ça le problème, puisqu'on commence... Ils se sont fixés 2020 pour que les mesures démarrent. Ouais. Et donc, c'est 2050.
Dans 15-20 ans, en fait.
Oui, c'est ça.
Oui, non, c'est ça. C'est 2050.
Et donc, il faudrait, pour arriver... Il faudrait que les gaz à effet de serre baissent de 70 à 90% d'ici 2050 pour atteindre l'objectif. De 1,5.
Pour compléter aussi, on est déjà à plus 0,8 degré aussi. Enfin, on n'en part pas de zéro, quoi. On a déjà, c'est 1,5 degré, on est déjà à plus de la moitié là aujourd'hui.
Du coup, Laurence Flichy, de la façon dont vous le présentez, ce serait presque une tarte à la crème d'écrire ça alors. Enfin, non, mais je sais pas si c'est réellement ça, ou peut-être d'autres personnes pourraient me contredire ou pas. D'ailleurs, il y a un micro qui peut tourner pour les personnes qui souhaitent réagir, bien entendu.
Alors moi, je dirais pas que c'est de la tarte à la crème, je me permettrai pas. Mais quand même, au Champ de Mars, le 12 décembre, où nous étions, on prit la parole Marie-Monique Robin et...
Naomi Klein.
Et puis... Geneviève Azan, voilà, d'attaque. Donc, ils ont clairement dit cet accord... n'est pas valable, enfin ne suffit pas. Donc ça veut dire que il va falloir qu'on relève nos manches, nous les civils, parce que c'est pas les États vont pas pouvoir, les gouvernements donc, sont pas prêts à les mettre en place.
Ça c'était ça, donc c'était les décisions. Donc pour vous, il y a eu des oublis sur cet accord de Paris?
Alors moi j'aurais juste aimé revenir sur les différents termes que tu as évoqués, j'y sais, à savoir l'ambition et donc que le texte soit différencié, juste, durable, équilibré et juridiquement contraignant. Peut-être ça déjà, qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Parce que ça résume assez bien quand même la vraie ambition de cet accord-là, et je suis tout à fait d'accord avec ces termes-là. Différencier, ça veut dire qu'on prend en compte la différence entre les différents pays et qu'on n'a pas tous le même effort à fournir.
Notamment les pays en voie de développement qui disent, au bout d'un moment, attendez, vous avez bénéficié, vous, d'émissions pour vous développer, et vous êtes en train de nous dire qu'on ne pourrait pas. C'est ça l'idée ?
C'est à peu près ça l'idée. Juste, ça veut dire qu'on va prendre en compte les pays qui sont déjà ou qui sont en train de devenir victimes du changement climatique. Donc là, on fait appel à ce qu'on appelle la justice climatique. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure.
De là, notamment, où émanent les réfugiés climatiques. C'est des personnes qui ne peuvent plus vivre sur le lieu où ils vivaient depuis toujours.
Et donc, d'ailleurs, ça fait partie des choses qui ont été oubliées, en tout cas, qui ne sont pas ressorties de la COP21, c'est que n'est pas reconnu le statut de réfugié climatique. Alors que c'était une des choses fortes qui aurait pu être actée.
Oui, et puis au niveau des pays qui diffusent de l'effet de serre, quand on regarde les mesures, on s'aperçoit que l'Europe est pas trop mal et que la France particulièrement se trouve bien, sauf qu'on oublie de dire que nos produits manufacturés sont conçus en partie en Chine, qui est un des pays, et on n'est pas les seuls, qui est un des pays qui profite de cette manne industrielle, mais qui produit avec qui produit avec des combustibles carbone.
Et puis, de toute façon, c'est notre consommation à nous qui, du coup, génère là-bas des effets de serre. Des gaz à effet de serre.
Voilà, c'est la production industrielle qui est faite en Chine pour un ensemble de pays qui fait que la Chine est dans le viseur des climato-sceptiques, on va dire, quoi.
Mais nous en sommes responsables aussi, du coup, à travers ce que vous nous dites, Dominique Nockaert.
Oui, c'est un peu de discipline, en fait, de consommation, avant tout.
Sur les termes, Clément, vous...
Alors oui, il y avait juste durable. Bon, durable, je pense que ça, c'est pas la peine. On comprend tous ce que ça veut dire, hein, que ça s'arrête pas dans 10 ans, mais que ce soit des engagements qui durent vraiment dans le temps. Équilibré, ça voudrait dire, c'est plutôt sur l'aspect économique, là, que du coup, il soit équilibré et qu'on parte pas dans une folie qui est pas assumable par l'ensemble des parties, et juridiquement contraignant, on en a déjà parlé aussi. Voilà. Je crois que c'était intéressant de reprendre ces termes-là, parce que finalement, quand on les prend un par un après, on peut assez facilement se rendre compte que, même si Laurent Fabius les a repris à la conclusion de la COP en disant que le texte respectait ces différents objectifs, si on les prend un par un, et c'est ce qu'on a fait avec le juridiquement contraignant, s'il y a de juridiquement contraignant que le fait de se retrouver pour en reparler, ça va quand même pas très loin, quoi, malheureusement.
De quel œil un peu vous voyez ce résultat de la COP21 avec vos yeux à vous?
Oui, parce que étonnamment, je me permets de compléter, c'est qu'il y en a qui ont été très satisfaits, et puis d'autres un petit peu moins. Donc du coup, votre regard à vous,
Le regard, c'est que tout est à faire. On peut partir. Alors, ça suffit pas de faire cocorico. On a gagné, c'est formidable, on est les meilleurs. Maintenant, comment on met en œuvre? Donc, il y a quand même pas mal d'exemples où il faudrait être en cohérence. Bon, par exemple, je vais en prendre un qui est un peu d'actualité. On dit qu'il faut réduire donc les transports, etc. On va construire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Bon, par exemple. Et puis, il y a plein de choses comme ça où il faut être cohérent. Donc, il y a vraiment, vraiment, vraiment à faire. Et les gouvernants ne bougeront que si y a une pression qui se fait.
J'ai la sensation, moi, quand même, qu'ils vivent déjà une pression. La pression des citoyens qui les élisent, qui veulent de l'emploi, qui veulent de la consommation. C'est clairement la demande du citoyen, hein, de l'emploi, du développement, ce qu'on pourrait appeler du développement, pas forcément durable, mais en tout cas du développement économique, de la consommation. C'est ce qui est demandé globalement par les citoyens. Ils doivent quand même composer avec ça, nos politiques, ils doivent composer. Ils ont choisi de composer avec ça, en tout cas, entre la demande des citoyens. C'est toute la différence entre l'envie et le besoin, finalement. Et ils doivent composer, en tout cas, ils ont choisi de composer entre ces deux univers. Parce que nous sommes responsables aussi, nous, alors pas nous individuellement autour de cette table, mais de manière beaucoup plus collective et mondialement également, parce que nous voulons consommer quand même. Et ils répondent quand même à cette demande.
Ouais, moi j'avais en tête là. Je pense qu'on les politiques, beaucoup d'entre nous confondent croissance, emploi et bien-être. ou bien vivre, ou je sais pas, on pourrait utiliser plein d'autres termes. C'est pas parce que, enfin, il n'y a pas nécessairement besoin de la croissance pour avoir de l'emploi, il n'y a pas nécessairement besoin de croissance pour avoir du bien-être, il n'y a pas nécessairement besoin d'emploi pour avoir du bien-être d'ailleurs. Et on fait beaucoup trop ce rapprochement-là, la croissance à tout prix, quoi. Parce que c'est la croissance qui va faire qu'on sera bien, qu'on aura de l'emploi, qu'on aura un avenir meilleur. Et
Elle a fait ses preuves, notamment en France, lors des Trente Glorieuses. Elle a généré du bonheur, elle a généré un tas de choses, elle a généré des conditions de vie.
Elle a généré aussi le réchauffement climatique.
Et oui, bien entendu.
Qu'on ne connaissait pas à l'époque.
En termes de modèle social, cette surconsommation a plutôt produit des effets qu'on pourrait appeler des effets bonheur. Des effets avancés.
Oui, on était dans une logique, mais... moi, je trouve que la COP21, qu'il faut le rappeler, a eu en parallèle les attentats. Et ça a plombé quand même pas mal la communication autour de la COP21.
Alors, je vous propose qu'on y revienne juste après, parce qu'il y a vraiment un point sur la couverture médiatique qui nous semblait essentiel à aborder.
D'accord.
Mais je voudrais qu'on finisse d'abord... excusez-moi, Dominique, de vous couper comme ça sifflet.
Non, il n'y a pas de problème.
Mais on a vraiment prévu d'en parler, proprement parler, parce que c'est important, forcément, c'est notre niveau d'information, c'est notre niveau de réflexion qui est alimenté à travers, notamment, le circuit médiatique. Je voulais juste revenir sur le fil qu'on était en train de tirer sur, finalement, c'est un modèle culturel quand même avec lequel il faut composer, non ?
Oui, non, mais justement, je voulais en arriver à ça parce que...
Arrivons-y, allez-y Dominique, faites comme vous voulez.
Il y a eu aussi les élections et je trouve que le résultat des élections, on n'a pas vu l'effet COP21. Donc, que l'on dise que la société civile est partie prenante à part entière des décideurs autour de la transition énergétique, moi, je veux bien, mais on n'est pas encore assez nombreux.
Alors, depuis tout à l'heure, donc, j'écoute. On a vraiment la sensation qu'il y a un réel décalage entre nos politiques et les citoyens lambda et les associations et ONG. En fait, les uns et les autres ne se comprennent pas.
Je ne sais pas s'ils ne nous comprennent pas. Ils font semblant de ne pas nous comprendre. Ouais. Parce que je crois que la politique, c'est la politique. Après, quand ils incluent effectivement de l'écologie dans leur politique, peut-être que là, on peut arriver à se comprendre. Mais encore une fois, il y a un contexte qui fait que ça n'arrive pas en premier. On est plus sur un état d'urgence et puis sur la sécurité des Français et des Françaises.
Avant d'aborder les autres thèmes, je voulais juste revenir sur compléter un petit peu ce qui en sort de cette COP21. On parle des accords de Paris, mais il faut les ratifier encore. Ça veut dire que il y a un document qui a été produit avec des articles, des systèmes d'application. Alors il y avait quand même une partie budgétaire. Hein, je me permets, tout à l'heure, on n'avait pas insisté là-dessus, mais j'ai retrouvé la partie budgétaire. Ça y est. Pourtant, elle est pas longue cette déclaration. Et je suis en train de chercher. Excusez-moi.
100 milliards.
Voilà, 100 milliards par an.
À partir de 2020.
De 2020, mais de toute façon, il va falloir ratifier
quand
même...
Pour financer les projets.
Ouais. Il va falloir quand même ratifier cet accord. Alors, dans quelle mesure, alors pour le coup, c'est là où je suis un peu moins fort quand même, c'est dans quelle mesure et dans quel contexte ça doit se ratifier et quelle est cette majorité de ratification nécessaire ?
Alors, il faut qu'il y ait au moins 55 pays qui ratifient le protocole, le texte en tout cas, et que ces 55 pays représentent au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Voilà. Pour, à titre de comparaison, le protocole de Kyoto de 97 n'a été ratifié qu'en 2003 ou 2005, je ne sais plus. Mais voilà, en tout cas...
Très très tardivement.
6 ou 8 ans après, donc ça peut prendre du temps, quoi. Et donc pendant ce temps-là, il n'y a rien qui est appliqué, bien sûr. Forcément. Enfin, il n'y a rien de juridique.
Mais alors, dans l'idée où il y aurait 55 ou 60 pays ou même 70 pays qui ratifieraient cet accord, il est valide, mais du coup, est-ce qu'il contraint les 120 autres pays à rentrer dans cet accord ? Ou au bout d'un moment, c'est à 55 qu'on va faire cet accord ? Ce qui sert à rien, pour ainsi dire.
Ils seront que 55, parce que ceux qui ne le décident pas, c'est parce qu'il ne sera pas voté, par exemple, la France devra le ratifier en le faisant voter à l'Assemblée nationale. Enfin, dites-moi si je me trompe.
Je crois que
c'est ratifié par les États, de toute façon,
si c'est pas
en fonction des États et des systèmes démocratiques dans les États.
Si ce n'est pas accepté par les instances politiques, les instances décisionnelles de l'État, de toute façon, ce ne sera pas mis en œuvre dans ces États-là. Donc non, ce sera que ceux qui le signeront.
Ce sera reporté pour la COP22 au Maroc.
C'est ça.
Ouais.
ou plus tard.
Oui, Laurence.
Oui, justement, là, pour revenir sur cette... Vous posiez la question tout à l'heure, et l'individu là-dedans, enfin, ou la personne. Je préfère parler de personne que d'individu, mais effectivement, on est dans la consommation, etc. Mais il va bien falloir aussi qu'on prenne conscience que le climat, ça va nous tomber dessus. Vous savez, dans Astérix, là, le ciel va nous tomber sur la tête. Un jour, ça risque de nous tomber sur la tête. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Et donc, à un moment donné, ça interroge aussi le comportement de chacun. Je pense qu'il faut aussi savoir que...
Il faut qu'il y ait une prise de conscience.
Il faut qu'il y ait une prise de conscience.
Alors, j'aimerais bien aborder justement cette question médiatique. Si en salle, quelqu'un souhaite prendre la parole, n'hésitez pas, Cédric, il est là, juste dans le coin, et il sera ravi de vous passer le micro. Peut-être tu voulais prendre la parole directement.
Parce que pareil, on parlait de la société, comment elle fonctionnait, qui était plutôt sur un mode... sur un mode où ce qui est bien, c'est avoir un pouvoir d'achat fort, une croissance importante. Je pense qu'effectivement, le problème de base, c'est d'abord un modèle sociétal à revoir, et un modèle éducatif aussi à revoir. Parce que je pense que même, c'est vraiment tout sur la croissance, sur il faut grimper les échelons. Et effectivement, je pense qu'on pense beaucoup croissance, mais pas bien-être personnel, entre guillemets. On a un peu vendu l'humain pour le bien, quoi, entre le bien matériel, entre guillemets.
Ça fait partie de cette consommation de masse qui a été insufflée, on va dire, après les efforts de guerre. On est parti dans cette mouvance un petit peu. En fait, on s'est laissé entraîner là-dedans.
Oui, puis maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup quand même... comme tout le monde en parle depuis des années, c'est le modèle capitaliste qui a pris un peu le pas sur le tout. Et là, on se rend compte des effets que ça a, quoi.
C'est intéressant, ça veut dire que, est-ce que, et là je me tourne vers les gens dans la salle, les personnes autour de la table qui sont bien plus informées que nous sur ces questions-là, est-ce que clairement, à travers ces décisions, c'est un modèle capitaliste à mettre, à changer ? Enfin, est-ce que c'est parce que clairement, dans cette notion de capitalisme, il y a une avancée permanente de générer... de l'achat, de générer du capital, de réinvestir, enfin d'aller plus loin. Est-ce que clairement, on l'a pas nommé comme ça depuis le début de nos échanges, mais est-ce que clairement, c'est le capitalisme qui est monté du droit ou pas forcément ? Il existe des modèles capitalistes possibles avec ces notions d'environnement.
Je pense qu'après, il faut pas non plus tout taper là-dessus, mais je pense qu'il y a vraiment un rééquilibrage à faire.
Oui, non, mais en tout cas, on ne l'a pas évoqué du tout, ce mot-là. Le mot capitalisme, on ne l'a pas du tout, et c'est un modèle économique dans lequel nous vivons actuellement. Et donc, du coup, très frontalement, la question, c'est est-ce que c'est ce modèle à mettre en cause, ou on peut cohabiter développement durable, conscience environnementale et capitalisme, d'après vous, selon vos regards à vous ?
Bah, de toute façon, le mot capitaliste serait venu parce que l'économie libérale... C'est pas qu'un peu qu'elle a pris le dessus, c'est qu'elle prend, elle a pris à bras-le-corps la société. Et c'est un peu antinomique, en fait, de parler d'une transition énergétique avec le monde du capitalisme. Et en même temps, à la COP21, il y a des grands groupes économiques qui étaient partenaires de la COP21, ce qui est aussi antinomique. Même si le groupe Total développe une branche énergie renouvelable, ça n'empêche qu'il continue à avoir dans le monde des forages un peu partout. Et puis, ce qui ressort aussi dans la COP21, c'est que les pays en sous-développés ou en voie de développement et les pays développés, c'est bien là où il y a un problème d'accord. Parce que il y en a qui disent que effectivement les pays les plus riches n'ont pas à payer pour les plus pauvres, c'est aux pauvres. Mais en même temps, les pauvres disent oui, sauf que nous on fait comme vous et qu'on demande à avoir une croissance ou en tout cas un niveau de vie au même niveau que les pays européens ou américains.
Je voulais revenir parce que de toute façon, on aura le temps encore de poursuivre sur ces sujets et je vois que vous avancez, Dominique, et vous avez bien raison. Je voulais revenir quand même sur cette couverture médiatique de la COP21. Terminer vraiment sur cette notion de COP21 et puis avoir arrivé sur la deuxième partie d'émission sur tous les enjeux, les leviers et comment ça peut fonctionner. Mais je voulais vraiment finir sur cette notion de COP21, histoire qu'on soit un peu organisé dans l'idée, ce qui est loin d'être gagné. Hein. Mais en tout cas, moi j'ai eu cette sensation qu'avant la COP21, en tout cas les 2 mois, 3 mois qui ont précédé, dans les médias de première ligne, les médias de masse, en tout cas, enfin, ceux qui sont accessibles très facilement, ceux qui sont consommés par la plupart de la population, hein, finalement, on nous en a parlé. Et on nous en a parlé régulièrement de cette COP21. On nous mettait en avant... Pernod nous faisait les régions du talent avec des initiatives locales autour de l'environnement, machin. On avait régulièrement des solutions pour économiser l'eau, toute cette sensibilisation, qui était sûrement nécessaire d'ailleurs, hein, en amont de cette COP21, et je ne la remets pas en cause. Mais à partir du moment où elle s'est passée, et Clément, tout à l'heure, avant l'émission, vous me disiez même quelques semaines avant, on n'en a plus parlé. Et là, après COP21, il faut se prendre en main, aller chercher ces articles, savoir ce qui s'y est passé, il faut chercher l'info. Est-ce qu'il y a vraiment un poids des médias? J'imagine que oui, parce qu'ils participent à l'éducation, en tout cas des citoyens, normalement, quand c'est bien fait. Est-ce que vous avez un regard sur ce truc-là, ou il n'y a que moi qui rêve par rapport à cette couverture médiatique?
Je pense qu'effectivement, la COP21 a été mise de côté. Il est difficile de savoir comment ça se serait passé s'il n'y avait pas eu les attentats, s'il n'y avait pas eu les élections au même moment.
Enfin, on nous a parlé des soldes tout janvier,
ça,
hein, quand
forcément.
Même.
Hein. Oui, mais concrètement, c'est clair. Il y a ça, et puis... clairement, il y a eu un engouement médiatique qui a chuté même avant la COP21. Et puis, à l'issue de la COP21, les grands médias ont assez bêtement, je trouve, repris le communiqué de presse du gouvernement sans avoir un travail d'investigation journaliste.
Ah, je l'ai repris aussi, hein, mince.
C'est
pas grave.
C'est normal de le reprendre parce que ça existe.
Oui, bien sûr, mais après, il y a l'analyse qui va derrière. Quoi.
Voilà, c'est ça.
Et c'est ça qui a manqué cruellement. Quoi. Et c'était hallucinant de voir que on déroulait. L'accord a été un succès, c'est génial, on a tous signé, enfin tous les pays ont signé, donc c'est bon, c'est un succès. Sans aller creuser.
Oui, on pourrait penser que c'est réglé presque. Ah ouais. Il fallait une COP à Paris pour que ce soit réglé, quoi.
Moi, il me semble que les médias, de toute façon, couvrent des événements. La COP21 était un événement, donc il fallait... Du sensationnel, voilà. Et une fois que le sensationnel est passé, après, c'est les soldes, c'est je ne sais pas quoi. On est toujours dans le court terme. Or là, il s'agit de long terme, de moyen terme et de long terme. C'est ça qu'il faut voir. On a beaucoup de mal. Et c'est très difficile de sensibiliser les gens. Donc, alors il y a bien de temps en temps, sur l'un ou l'autre média, il y a quand même des exemples qui sont donnés de solutions, de gens qui travaillent, etc. Et je crois vraiment que les médias, moi c'est comme ça que je ressens les médias, c'est du sensationnel, puis après, pouf, on passe à autre chose.
Oui, le meilleur exemple du sensationnel, c'est lors de la chaîne humaine du 29 novembre à Paris, où il y a eu des événements dramatiques à République, il y a eu des échauffourées. Quand on lit ou quand on regarde les médias, ils commencent par ça. Alors qu'il s'est passé, nous on y était, enfin moi j'ai rien vu de tout ça, mais il s'est passé une chaîne humaine qui était importante, et on en parle, mais ça vient en seconde zone et en sous-main, on va dire.
Faut peut-être expliquer ce que c'était que la chaîne humaine.
Carrément, je veux bien, c'était la question qui était sous-jacente.
C'était le 29 novembre, au démarrage, juste la veille du démarrage de la COP21, il était prévu une immense manifestation dans Paris, où devaient venir énormément d'étrangers aussi. Je ne sais plus, dans les précédentes, il y avait près d'un million de personnes dans la rue. Et là, pouf, on n'a pas eu le droit parce que c'était
l'état d'urgence.
Et ça, on l'a respecté, mais on a fait une chaîne humaine, quand même, de la République à Nation sur 3 kilomètres. Côte à côte. Bon, ça faisait quand même beaucoup de monde. Après ça, effectivement, comme dit Dominique, il y a eu des échauffourées, et c'est surtout les échauffourées qu'on a vues en boucle. Est-ce que c'est plus...
À tel point que quand moi j'étais à Reims à ce moment-là, et j'y suis allé avec des amis de Reims, et quand on est rentré de Reims... Il y a eu des appels téléphoniques des enfants des uns et des autres qui nous demandaient si on n'était pas en cabane.
Parce qu'une chaîne humaine, je viens de calculer, hein, de 3 km, ça fait au moins 2000 personnes, au moins.
Ce qui n'est pas rien.
C'est quand on tire un peu les bras, quoi.
Non, là, on était côte à côte comme ça. Hein.
Ah oui, moi, je refais mon calcul. Oui.
Alors, ils ont calculé, hein. Ils ont dit 5000, je crois.
Oui, c'est ça. Ouais.
Moi, je bosse pour les forces de l'ordre. Hein, voyez, les chiffres. Moi, j'ai les chiffres des forces de l'ordre.
Je vois ça. Hein,
chacun ses chiffres.
Les bras écartés, on se touche le doigt.
Je voulais juste revenir sur une dernière chose, puisqu'on a parlé, consommation de masse et autres. Des entrepreneurs étaient là aussi étaient présents pour la COP 21. Est-ce que ça a été bien vu? Est-ce qu'ils ont pu proposer des choses intéressantes ou c'est comme les politiques et on n'y comprend rien aussi?
Il y avait un espace, à l'entrée de la COP 21 qui était ouvert au public, qui s'appelait l'espace Génération Climat,
ouais.
et qui était en fait que des boîtes qui ont envie de se développer sur un peu cette vague verte, quoi.
Ouais.
Le greenwashing, on dit.
Le greenwashing.
Vous le dites mieux, quoi.
ouais, c'est ça, c'est de dire on va profiter. On parlait du capitalisme tout à l'heure, c'est tout à fait les travers que vont continuer à nous amener le capitalisme, de développer cette idée qu'on peut se faire de l'argent avec l'économie verte et avec le réchauffement climatique, ça peut générer de l'argent, mais sauf que c'est forcément des activités qui vont impacter de plus en plus le réchauffement climatique, qui vont pas du tout le résoudre. Qui ne change pas le système en profondeur, on va dire.
Laurence Flichy.
En même temps, juste pour nuancer un tout petit peu le propos, parce que je suis quand même d'accord avec lui, mais par exemple, sur Alternativa, le 12 septembre à Évreux, on avait invité tous les gens qui faisaient des gestes en faveur de la réduction des gaz à effet de serre contre le réchauffement climatique. Et il y avait là-dedans des entrepreneurs du bâtiment qui font des murs en bauge, etc. Enfin, c'est une entreprise quand même qui doit gagner de l'argent. Il est sur le modèle capitaliste, puisqu'il ne peut pas faire autrement. Mais en même temps, bon, donc il faut aussi quelquefois savoir être un peu sur le courant. Enfin, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, mais en même temps être extrêmement vigilant, parce que sinon il y a de la récupération et se faire de l'argent sur le dos, c'est ce qu'on appelle le greenwashing, oui, effectivement.
Complètement.
Je lave plus vert que toi.
Une intervention de Monsieur Pignon, et puis après nous partirons en musique, oui. Sauf si elle nécessite réponse, bien entendu. Monsieur Pignon.
Je vais essayer de faire court et sans faire de publicité, mais on était sur la thématique des médias et j'ai aucun intérêt à parler de ces médias là, mais c'était presque une forme de question, mais je sais que j'ai bien compris qu'on n'avait pas le temps de développer forcément.
Nous le prendrons, Monsieur Pignon, nous le prendrons.
La question aurait pu être, est-ce que vous pouvez, vous qui êtes invité de cette émission, nous conseiller 2-3 médias peut-être à suivre qui parlent de ces thématiques là? Moi j'en vois deux, dont qui n'est pas vraiment spécialisé à proprement parler dans les thématiques environnementales, mais qui en parle régulièrement, mais plus largement des luttes citoyennes. Je pense à Basta et une qui est un média, un journal qui est vraiment, et un site internet qui est vraiment consacré là très clairement aux causes et sujets environnementaux. Je pense à Reporter. Il y en a d'autres. Voilà, j'ai aucun intérêt à faire de la pub pour ces deux-là. Il y en a plein d'autres.
On n'a pas de désintérêt non plus. Hein.
Voilà, ce que je terminerai juste là-dessus, c'est que j'imagine que nos auditeurs qui écoutent cette émission sont régulièrement sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Ces deux médias-là et tous les autres sont aussi sur les réseaux sociaux. On n'est pas obligé de se balader tous les jours sur les sites internet, aller lire la presse, etc. Ça permet d'avoir une information qui me semble être pas celle des grands médias de masse, qui est pertinente, ou en tout cas qui me semble pertinente à titre individuel, et qui permet en même temps d'être informé. Vous parliez tout à l'heure de Notre-Dame-des-Landes, de Sivens, de tous ces sujets qui font un peu crispation dans la société française et qui en même temps sont des enjeux de pouvoir, de sujets médiatiques, enfin voilà. Et ça permet d'avoir un autre son de cloche que les médias de masse. Voilà.
Vous voulez un conseil de la bibliothécaire?
Je vous laisse reprendre le cours normal de votre émission.
Oui, du coup, ouais, est-ce qu'il y a des journaux, des publications
Ce que tu as cité, ouais. C'est très bien. Hein. Reporter, par exemple, on peut aller sur le site, s'abonner à la newsletter et on reçoit régulièrement des infos et on y va quand ça nous chante. Mais au niveau des grands médias, je voudrais signaler aux auditeurs que...
Alors, je me permets peut-être de compléter. Il y a sur... Alors moi, j'ai fait que le site. Il y a Terra Nova.
Tu coupes tout le
temps, toi. Oui, mais c'est mon boulot, monsieur. C'est mon boulot, monsieur.
Non, mais tu vas me laisser terminer pour une
vous
fois.
En prie. Non, je voulais rajouter Terra Nova que régulièrement Terra Nova, je vais visiter et que voilà. Je trouve plutôt intéressant. Voilà, pardon.
Respublica, autre chose. Qui est
voilà, c'est ça que Monsieur Pignon voulait savoir. Voilà.
Mais au niveau des grands médias, France Inter, qui a une excellente émission le dimanche midi. Je ne sais plus le nom de l'animateur et de l'émission.
Jacques Paoli,
voilà. Consacre ce dimanche, sa thématique, ce sera l'après COP21. Et généralement, c'est une émission de haute tenue.
A priori, son prénom, c'était Stéphane, plus.
Stéphane Paoli.
C'est voilà. Bien possible, oui.
C'est un copieur.
Complètement.
C'est ce que je me suis dit en l'entendant.
J'aurais juste... Mais effectivement, Clément, je pense que oui. Reporter et Basta sont les deux principaux pour aller fouiller sur ces initiatives citoyennes et sur les mouvements qu'il y a dans la société civile. Juste un qui m'est venu en tête là pour aller creuser un peu plus sur le sujet des grands groupes énergétiques, par exemple, qui s'appelle l'Observatoire des multinationales. Et qui permet vraiment d'aller fouiller sur les activités réelles des grands groupes. On parlait de Total tout à l'heure, qui développe une partie énergie renouvelable. Quel pourcentage de leur activité ça représente, par exemple? Quelles sont les activités de ces grands groupes? Pourquoi nous on les dénonce aussi, hein, parce que effectivement, même si en tant que citoyen on a plein d'idées, plein d'envies, on ne sait pas toujours aller dire exactement, avoir des chiffres, avoir des données réelles. Là, il y a de l'investigation très précise et très poussée qui est vraiment intéressante.
De toute façon, c'est avec le niveau d'information que nous avons que nous forgeons notre esprit critique et puis notre mode de raisonnement, tout simplement. Effectivement, si nous n'avons pas les informations, il est plus difficile d'avoir un avis cohérent, même avec soi-même, hein, parfois. Voilà. Je vous propose tout de suite, histoire qu'on reboive un coup, parce que ça fait déjà un moment qu'on discute, on va finir par s'assécher. Je vous propose tout de suite que nous fassions une pause musicale concoctée par Monsieur Pignon, et puis nous reviendrons juste derrière pour évoquer quelques sujets, et notamment peut-être revenir plus sur la localité. Monsieur Pignon.
Sous bateau longtemps, tu n'avais pas de noix, t'es comme les animaux. Zoti viens pas ici, zoti ben dans le sang, zoti viens pas là, nana l'océan. Zoti viens pas ici, zoti ben dans le sang, zoti viens pas là, nana l'océan. Bam kalou bam. Bam kalou bam, 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 bam kalou bam. Et Ramuniti, dans ton commandement. Et chez autres frères, à force d'en souffrir, la peau, la colère, couleur flamboyant, quand ça allait en flair, le sang l'a caillé, laissez-nous te passer, boubou l'a poussé, la peau complétée, le sang l'a caillé, laissez-nous te passer, boubou l'a poussé. Bam kalou bam, 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 bam kalou bam. Ça tu vois aujourd'hui. Oui, nous les chômeurs, Zoti Ouattaléa, mais ça prend l'avion pour quitter mon pays. Y a fait la réunion, j'ai migré Zoti, l'esclave a longtemps, Paris les jolies, nous n'a plus un sang. J'ai migré Zoti, l'esclave a longtemps. Commandez aujourd'hui
bukumela zati roulangas zati gay la dans pour bien cause français un mot so créole vous picab tirer côté zotné pep la pour crier il s'en va l'école il s'en va marron.
Qui nous accompagnait sur cette émission. Alors c'est un morceau long, au début on a dit qu'on n'allait pas le laisser intégralement, mais finalement ça fait plaisir.
C'est trop bien la radio.
Principe actif, 102.4 FM.
Alors nous voici pour notre deuxième partie. Hein.
C'est ça, il n'y aura pas de trois a priori,
on va faire en deux. Donc Clément, on voulait revenir sur...
Je me permets juste, nous sommes toujours en direct, en public, en live, bien. Du RIF de la MJC Bel et Bas à Évreux. Vous pouvez nous rejoindre, la porte est ouverte, Cédric, c'est ça ? Voilà, la porte est ouverte, vous pouvez venir nous rejoindre, bien entendu. C'est la salle au premier étage. Nous sommes là dans le cadre d'un projet que nous lançons autour des échanges, de discussions, de débats, de... En tout cas, on va essayer de faire avancer des idées. Et petit à petit, c'est peut-être comme ça que nous avançons, bien entendu. Nous évoquons aujourd'hui le sujet de l'après-COP 21. Nous l'avons évoqué sur cette première partie d'émission. Nous avons avec nous autour de la table Clément Bricchiani, vagabond de l'énergie, Dominique Knocker du collectif pour la transition citoyenne de l'heure, Laurence Flichy également de ce même collectif, mais aussi de la Vie Nouvelle, et Robin Branchu nous a rejoint en plateau de l'association Heure en Transition. Voilà, je voulais remettre un petit peu le contexte de tout le monde, parce que nous parlons, nous échangeons, mais finalement les gens qui nous prennent en cours de route ne savent pas avec qui nous parlons.
Exactement. Merci d'avoir remis le contexte en place.
Mais donc, je t'en prie.
Je reviens puisque Clément voulait rajouter quelques petites choses par rapport aux oublis de cette COP.
Même s'il y a plein de sujets à aborder, et évidemment qu'on va arriver sur les solutions locales, c'est important d'en parler.
Non, mais si on y passe des journées entières à parler de ces sujets-là hors micro, vous n'allez pas croire qu'en une heure et demie, nous allions tout régler.
C'est
hein.
sûr. oui, je voulais juste revenir sur donc, cet accord. Il s'est dit quand même pas mal de choses. Il faut savoir qu'en fait, le texte avant, il faisait énormément de pages. Il a été réduit à 17 pages. Et il y a beaucoup de termes.
En quelle taille ?
taille police 14 non je sais pas il y a beaucoup de termes qui étaient à l'impératif qui se sont retrouvés au conditionnel donc qui du coup est obligatoire ne le sont plus et je voulais juste citer quelques thèmes comme ça qui me semblent assez symboliques de choses qui sont oubliées ou qui n'apparaissent pas dans l'accord en tout cas.
Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucune obligation, aucune contrainte, aucune contrepartie en cas de non-respect des engagements ou des
protocoles. Non, il n'y a toujours pas d'ailleurs.
Et voilà. Et ça, notamment dans le milieu associatif autour de l'environnement, dans les ONG également, c'est ce qu'elles réclament.
C'est largement dénoncé.
Voilà, très clairement. Je vous laisse poursuivre, Clément.
dans cet accord, on ne parle pas du tout de calendrier de baisse des émissions, c'est-à-dire que c'est des objectifs qui sont sur la base du volontariat. Il n'y a aucun objectif en termes de, voilà, à telle date, on veut avoir réduit de temps, tel pourcentage, il faut aller en progressivement, en allant d'étape en étape. Mais il n'y a pas cet objectif-là qui est chiffré, donc on n'a pas d'objectif à court ni long terme. On parle que de degrés, un objectif en termes de contenir la température en dessous d'un certain seuil, mais on parle pas on quantifie pas la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui devrait avoir lieu. On parle pas du tout dans cet accord aussi des énergies fossiles. Alors que c'est quand même le cœur du problème, c'est on brûle du gaz, du pétrole, du charbon, et ça crée des émissions, ça crée des gaz à effet de serre.
C'est la majeure partie des gaz à effet de serre émis, les énergies fossiles.
Via notamment le CO2. Alors après on va pas rentrer dans le détail, mais il y a plein de gaz à effet de serre. Il y a plein de gaz à effet de serre qui sont beaucoup plus nocifs que le CO2. Mais le CO2 est tellement représenté, tellement largement, majoritairement, que c'est lui qui a le principal effet sur le réchauffement climatique.
Sur le CO2, je me permets, peut-être je suis un âne quand je vous dis ça,
non.
Mais j'ai cru comprendre, en tout cas j'ai cette sensation qu'en fait le CO2 ne se détruit pas, en fait soit il est absorbé par et emmagasiné par notamment les arbres et compagnie,
par exemple,
soit il est
l'océan en fait en majorité, l'océan également qui stocke le CO2.
Et du coup, à travers notre utilisation des ressources naturelles, finalement on diminue le nombre de stockages. Enfin, là où on le cache, mais finalement, on n'en crée pas. Quand on brûle du bois, on libère celui qui était dans le bois. Peut-être que je dis une bêtise, hein.
Arrêtez-moi
quand je dis des bêtises.
C'est que l'arbre a stocké du CO2 et du coup, on le remet dans l'atmosphère. Donc le bilan est neutre, en fait, concrètement, quand on brûle du bois.
Sauf quand on enlève des zones de stockage.
Oui, voilà, c'est
du
ça.
Du coup, c'est moins neutre.
Exactement.
Oui, parce que s'il y a réchauffement climatique, c'est parce qu'il y a un déséquilibre.
Non, c'est que je voulais comprendre aussi, moi.
Ouais, complètement, mais c'est important de le dire. Et donc, les énergies fossiles sont quand même le cœur du problème, et on n'en parle pas du tout dans cet accord. Il y a même, j'étais allé regarder moi-même, même si effectivement, comme tu dis tout à l'heure, c'est assez compliqué, donc j'ai pas forcément tout compris, et j'ai pas pris avec moi un cabinet de juriste. Mais il y a
vous
que.
Auriez dû.
Mais par contre, j'ai fait une recherche de mots-clés, on trouve que deux fois le mot énergie dans tout l'accord qui fait 17 pages. Et donc, une fois, je crois que c'est dans l'intro, un truc dans une phrase un peu vague.
Rédiger, c'est ça,
et la deuxième phrase, c'est il faut continuer à promouvoir les énergies renouvelables en Afrique. Enfin, voilà, concrètement, c'est du flan, quoi. Donc voilà, énergies renouvelables d'ailleurs qui ne sont pas du tout citées, parce que même si on doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on doit d'abord réduire la consommation avant de penser à développer les énergies renouvelables, mais on doit quand même les développer, ça c'est clair, et elles ne sont pas non plus citées. On a parlé beaucoup avant la COP21, dans les médias d'ailleurs pas mal, du prix du carbone. Et c'était d'ailleurs un des objectifs phares de la COP21, c'était de fixer un coût du carbone qui soit contraignant. Et d'ailleurs, on pensait même dans le milieu un peu écologiste que c'était une des seules choses qui allait en sortir. Et pour le coup, il n'y a même pas de coût du carbone qui a été décidé. C'est-à-dire que
ça veut dire que quand je suis une entreprise, que je rejette beaucoup de carbone, j'ai une espèce de taxation sur
Exactement.
Mon carbone, c'est ça ?
En fait, on peut acheter et vendre ce qu'on appelle des droits d'émission. Et donc aujourd'hui,
il suffit que je crée une société et du coup j'ai des droits et je peux les revendre, peu importe mon activité.
C'est lié à une activité.
D'accord, ok.
Tu peux tout à fait acheter des droits et les revendre derrière. C'est d'ailleurs ce qui se passe.
Une bourse.
Il y a une bourse, ouais, c'est ça, qui aujourd'hui n'est pas régulée. Et donc c'était un des objectifs, c'est de fixer un prix à ce carbone-là et un prix qui soit fort pour que réellement il y ait un impact sur les activités industrielles. Aujourd'hui, les grandes entreprises arrivent même à se servir de ce système de quotas d'émissions et d'échange de carbone pour se faire pour générer des profits, quoi. C'est tellement peu contraignant, et donc il y a tout un marché qui s'est créé autour de ça que ça génère, en fait, hein, ça contribue à cette croissance. Donc c'est assez antinomique aussi. Il y a rien non plus sur le transport est quand même un des gros enjeux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a rien sur le transport maritime, sur le transport aérien. Rien ne va changer là-dessus. Par exemple, le transport maritime, qui génère une quantité incroyable de gaz à effet de serre, n'est attribué à aucun État. Parce que l'État d'où part le bateau et l'État où le bateau arrive, aucun des deux ne veut prendre la responsabilité de se dire « c'est moi qui prends en compte dans mon comptage les gaz à effet de serre ».
Chacun se rejette
là-bas. Personne ne le compte, ce truc-là.
Dans des deals comme ça, dans les cours d'école, on fait des moitiés-moitiés. Ouais. Alors comment est-ce que des États n'arrivent pas à avoir eu...
C'est pas une si mauvaise solution, effectivement. Et donc, il n'y a rien non plus sur la justice climatique, donc sur, même si les États, donc la COP21 reconnaît que les pays du Nord, les pays développés, ont une responsabilité plus forte que les pays du Sud, il n'y a rien sur des solutions à mettre en place pour aider les pays du Sud à ne pas faire les mêmes erreurs que nous. et à se sortir aussi des conséquences du réchauffement climatique qui fait que les cyclones et tous les événements climatiques, les ouragans, les tsunamis et la montée des eaux font que ça génère des coûts astronomiques, tout ça, et donc rien n'est fait sur ce plan-là non plus.
Et que ça va créer aussi des réfugiés climatiques, et là-dessus, on n'en dit rien non plus. Donc, ouais. Par contre, effectivement, maintenant, tous les États qui étaient présents sont informés, parce que les petits pays qui sont soumis à ce type de fléau ont présenté déjà aux grands États les conséquences que ça pouvait avoir pour leur propre pays. Mais il n'y a rien de...
Quand je vous écoute parler, je me dis qu'en fait, concrètement, il n'y a rien qui a été annoncé et mis en place pour régler certaines urgences, on pourrait dire. Ça me fait penser, enfin, je ne sais pas, à une sorte de fumisterie un peu politico. Je me trompe peut-être.
J'ai une phrase qui est tirée de l'accord que j'aime beaucoup, qui dit que les pays développés doivent, je cite, « continuer de montrer la voie ». Soi-disant qu'ils montraient déjà la voie aujourd'hui. Donc ça montre bien dans quel état d'esprit est fait cet accord, quoi. Doivent continuer. Soi-disant, on a déjà pris des mesures en place, on est en route, ça va se faire tranquillement, vous inquiétez pas, on est en train de s'occuper de ça.
Ce serait presque un modèle à suivre.
Tout va bien, quoi. Donc on est un modèle à suivre. Et ça a été dit tout à l'heure, effectivement, on réduit nos émissions de gaz à effet de serre parce qu'on délocalise nos entreprises. Ouais. Et donc on peut dire, oui, c'est bon, nos émissions de gaz à effet de serre diminuent. Mais notre mode de vie, lui, il continue toujours à demander de plus en plus d'émissions. C'est juste qu'elles sont faites à l'étranger, du coup, on les compte pas chez nous. Donc tout va bien. Et je trouve ça
c'est
assez
génial, mais pourquoi on n'y avait pas pensé avant?
Ouais, c'est vachement bien.
Ça me fait penser aux chiffres du chômage.
Non, mais j'étais tout à l'heure quand vous étiez en train d'aborder la notion de hémisphère nord, hémisphère sud. Vous allez voir qu'un jour, ils vont trouver la solution, c'est de déplacer tout simplement l'équateur. Hein. C'est ouf. Non, mais je trouve qu'il y a une idée un peu comme ça. C'est on a un problème avec l'équilibre nord-sud, déplaçons l'équateur.
Sauf que ça, c'est des raisonnements humains. En fait, la planète, elle s'en tirera toujours. C'est-à-dire qu'elle s'adaptera, même si ça se réchauffe trop. Bon, les dinosaures ont disparu, la planète a continué. Bon, l'humanité, après ça, tout...
Ça, c'est vraiment important de le dire. On n'est pas en train de sauver la planète, on est en train de sauver l'humanité, se sauver nous, quoi.
Mais ça, c'est une notion hyper importante, parce que ce qui est mis sur le devant de la scène régulièrement, c'est
pour la planète.
La planète. On sauve la planète. En fait, non, on ne sauve pas la planète, on sauve notre gueule. C'est ça, l'idée.
Et c'est bien pour ça... que c'est pas politicard, ça concerne tout le monde.
Tout le monde, ouais.
Parce que c'est tous.
Oui, Monsieur Pignon était en train de dire aussi, il n'y a pas que l'humain finalement, il y a un tas d'espèces, on voit bien qu'il y a quand même une réduction de la diversité.
Alors la vie.
Nicolas Hulot, pour le coup, j'y reviendrai après sur ces notions-là, parce que notamment Nicolas Hulot a beaucoup fait à une époque pour le grand public autour de ces questions environnementales.
Il continue à faire. Hein.
Et, oui, d'ailleurs, il continue, mais pour le coup, il y a une époque qui était précurseur quand même sur le grand public et notamment sur la sensibilisation. Et c'est vrai qu'un des axes forts qui a sensibilisé le public, c'est quand même la réduction des espèces. De la diversité et de la biodiversité de manière plus large. Pardon, c'était ça. Sur les accords COP21...
Moi, je voulais revenir là-dessus, après, peut-être qu'il y a d'autres...
Non, vous faites très très bien, si quelqu'un souhaite prendre la parole.
Il y a peut-être quelque chose de positif, c'est qu'ils reconnaissent le rôle de la société civile. Voilà, c'est pris en compte maintenant.
Que nous en sommes responsables de ce réchauffement climatique.
Qu'on peut être acteur.
Ah oui, qu'on puisse être acteur.
Donc voilà. Mais c'est encore ça a surtout été un constat, la COP21, et des promesses. Après, il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de contraintes sur cet accord.
Donc à la société civile de s'emparer de la chose.
Oui.
Alors justement, cette société civile, on a eu tout le tissu associatif et les ONG qui sont emparés de la question. Il y a eu la grande tournée Alternatiba à travers toute la France. Il y a eu un tas d'initiatives qui ont été proposées, notamment à travers ces Alternatiba. Certaines qui peuvent paraître un peu saugrenues pour des citoyens non sensibilisés à ces questions-là, ou certaines étaient peut-être réellement saugrenues, allez savoir. En tout cas, vous évoquiez tout à l'heure les manifestations sur cette COP21. On pourrait peut-être avoir l'image aussi qu'au moment, ces questions-là sont, s'en sont emparés, je sais pas, les gauchos ou je sais pas, enfin quelque chose un peu de
d'un mouvement.
Oui, voilà, comme si c'était
les écolo-gauchistes. Oui,
voilà, c'est ça. Non, mais bah, alors, bah, je vais le dire franchement. Alors voilà.
Les anarcho-écolo-gauchistes. Non, mais
il y a, oui, il y a un petit peu cette image au bout d'un moment de se dire, c'est une frange de population qui de toute façon va contester un peu tout. On a eu parfois dans les médias aussi un peu le stéréotype du militant. Il est chevelu forcément. il tient parfois. Même il y a eu une chasse parfois aux propos presque incohérents de certains militants. On va peut-être aller voir un tel parce qu'il est plus stéréotypé ou autre. Enfin, on pourrait avoir une image du militant environnemental ou en tout cas des personnes faisant partie de ces associations qui seraient effectivement l'écolo gaucho, finalement quelqu'un qui vivrait dans une utopie non réalisable. Aujourd'hui, autour de la table, et puis pour vous avoir croisé quand même régulièrement, et notamment Alternativa, on se rend compte qu'on est dans le concret, on se rend compte qu'on est dans la réalité. Cette image, vous vivez avec, vous luttez contre, comment ça se passe? Enfin, c'est... Parce qu'il y a quand même, je pense qu'il n'y a pas que moi qui ai vu ça sous mes yeux.
Personnellement, je m'en fous.
Oui, non, mais pour aller à la rencontre du public,
personnellement, je m'en fous.
Alors, je comprends bien que...
Je vais faire... vous savez, bon, je suis femme, ça ne vous aura pas échappé.
Absolument pas. Nous sommes perspicaces aussi. Fois,
oui, c'est ça. Et moi, je vis depuis que je suis gamine, avec aussi des propos misogynes, etc. Bon, bah, il faut... C'est une comparaison un petit peu peut-être osée. Mais je veux dire, on vit avec et on se bat contre aussi.
Oui, mais le but du jeu, c'est de faire bouger les lignes, peut-être pour que les citoyens prennent moins ces mouvements comme trucs un peu particuliers.
Ça veut dire qu'il faut sensibiliser, il faut convaincre, il faut démontrer que c'est pas vrai, etc. Mais après ça, les gens pensent ce qu'ils veulent.
Oui, mais justement, cette image, elle bouge un peu avec le temps, ou parce que c'est une époque où on avait confié l'écologie, comme je disais, un peu de façade à Nicolas Hulot. Voilà, c'était réglé, les années 90, il faisait de jolies choses. Ça a été, en tout cas un axe à une époque. Après, on a mis un peu il y a eu les partis politiques qui étaient, c'était quoi les premiers? C'était les Verts ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a eu d'autres choses avant. Enfin bon, et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, la question écologique, c'est ces partis-là, ce ne sont pas les autres. Vous voyez, enfin, il y a une espèce de sectorisation où on a enfermé au bout d'un moment les je sais pas, alors c'est peut-être moi qui suis à côté de la plaque ou moi qui l'ai ressenti comme ça en tout cas, mais voilà, comment avance l'image?
Alors en tout cas, je sais pas si l'image avance, mais moi par exemple je fais partie du collectif pour une transition citoyenne. Et primo, je suis gauche caviar et non pas gaucho. Je suis également catholique pratiquante. Donc, il faut arrêter avec les stéréotypes. Mais évidemment que dans nos milieux, il y a effectivement beaucoup de gauchos. Mais finalement, il y a aussi des... Enfin, c'est beaucoup de gauche aussi... tranquille, quoi. Enfin, pas forcément non plus que des gens très militants et qui le seraient dans n'importe quel contexte.
Parce que pour forcer le trait, ce serait presque, on pourrait dire, parce que c'est une histoire de jeunes, quoi. Enfin, de un petit peu avec la révolte jeunesse, quoi.
Oui, sauf que en fait, plus on discute avec des gens qui sont pas trop sensibilisés sur l'écologie, le premier reproche qu'ils font, c'est de dire oui, mais pourquoi il faut toujours que l'écologie soit une affaire de gauchistes. Et effectivement, moi, je pense qu'il peut y avoir une écologie de droite comme de gauche et que ça devrait être... on ne devrait pas avoir à se positionner par rapport à ça. Et en tout cas, voilà, moi, j'assume ma différence.
Vous faites bien.
Et de toute façon... alors, bon, après, on peut en parler comme ça, mais l'essentiel, c'est de faire des choses. Et quand on a fait Alternativa, on a démontré... Il y a 3 000 personnes qui sont venues. Ce n'est pas 3 000 gauchistes. Bon, c'est des gens qui sont venus voir... Il n'y en a pas autant que ça. Donc, je suis d'accord. Mais dans tous les cas, quand on est arrivé en tant que collectif, bon, eh bien... Quand on est allé démontrer ce qu'on voulait faire, etc. D'ailleurs, le premier contact avec la mairie, je peux vous dire, ils ont dit, ils sont complètement frappadingues. On va leur laisser, oui, d'accord, bah oui, vous pouvez. Bon, très bien. Et ils nous ont dit 3 mois après, ah bon, vous allez avoir 70, 100 intervenants. Bah dites donc, quand on vous a vu il y a 2 mois ou 3 mois, on ne pensait pas que vous en seriez capable. Donc, quelque part, il faut faire, démontrer, puis ça, les choses vont changer aussi, les mentalités vont changer.
Est-ce que vous pensez que, on va dire, les régions, les mentalités par région y jouent aussi? Est-ce que, je ne sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais la Normandie est peut-être plus ouverte à ce genre de propositions ou de démarches plutôt que la région parisienne où justement les gens sont un peu trop speed et...
Alors, je pense pas que la Normandie soit spécialement plus ouverte que d'autres régions.
Non, c'est un exemple.
Mais c'est intéressant. Il y a quand même une grosse disparité au niveau régional. Et on le voit en France qu'il y a, à mon sens, trois régions qui sortent du lot, c'est-à-dire qui sont un vivier d'initiatives et d'alternatives liées à ces questions-là, qui sont vraiment impressionnants, qui sont la région Rhône-Alpes, la Bretagne et Midi-Pyrénées. Et oui, il y a une histoire de culture aussi, je pense, beaucoup. Et en Normandie, on a une culture très industrielle qui est liée quand même au port du Havre, aux énergies, enfin, qui est plutôt fossiles, et donc qui est très industrielle, très sur la croissance, sur l'emploi. Et je pense qu'on a aussi du mal à faire évoluer cette mentalité aussi. Et en tout cas, il y a vraiment une vraie différence au niveau régional.
Je vous propose qu'avant qu'on revienne justement, c'était une très belle transition, Aurélie, sur les notions régionales.
Oui, non, Dominique,
vous vouliez parler.
Oui, d'ailleurs, le premier Alternatiba, ça a eu lieu en 2013 et c'est parti de Bayonne.
Ah, bah, effectivement, oui, il fallait le préciser. Oui, si vous voulez prendre la parole, allez-y, je vous en prie. 2014, on vient de vous rectifier, Dominique.
2014.
Absolument. Non.
2013.
Bon, on va voter pour. Je vous propose, le temps qu'on nous mettions d'accord, une très courte pause musicale, parce qu'on n'arrête pas de parler dans ce truc-là. Et cette courte pause musicale nous permettra de nous réorganiser pour le dernier plateau et malheureusement faire des choix dans les thèmes que nous souhaitions aborder. Monsieur Pignon.
The winner, I feel from within myself that first winner supposed to be I. Hear them now after I win. Hear them now after I win. Hear them now. Yeah, yeah, yeah. Hear them sing. Vexation over this race. I don't want no vexation over this race. No feelings, no swellards over this race. No feelings, no swellards over this race.
Et je ne m'hasarderai pas sur le titre de Burning Spear.
Le cas condamne une nouvelle fois les radios libres. Les autoriser, dit-il, ce serait l'anarchie des ondes.
Principe actif par principe actif. Ou actif par principe. C'est Principactif.
L'équipe, des bénévoles, tout à la fois techniciens et journalistes. Tous ont en commun de faire une radio libre.
Principactif.
Nous sommes toujours en direct, en live, en public du RIF, de l'AMJC Bel et Bas. Le RIF, en fait, c'est le bar associatif qui est à l'étage.
Elle est bien arrivée.
Ça s'entendait de toute façon dans les micros, hein, j'ai envie de vous dire. Donc c'est le bar associatif de la MJC Le Bel et Bas. Nous sommes en direct, en live et en public. C'est un projet que nous initions avec justement nos camarades de la... Oh, ça fait très... Non, camarades, je vais changer le mot. Avec la complicité de nos amis de la MJC. Bon, on était en train d'évoquer que c'était... est-ce que c'était un truc de gaucho ou pas? Donc je peux utiliser le mot camarade qui est bien trop connoté. Et donc le sujet du jour, c'est la COP, l'après-COP 21. Nous avons autour des micros pour échanger. Bah, bien entendu la salle qui peut réagir, mais nous avons également Clément Bricchiani, vagabond de l'énergie, on n'aura même pas eu le temps de trop en parler cette fois-ci, mais on en avait déjà parlé, Dominique Knockaert du collectif pour la transition citoyenne de l'heure, Laurence Flichy également de ce même collectif, mais aussi de l'association La Vie Nouvelle, et Robin Branchu de l'association Heure en Transition. Finalement, on retrouve les acteurs d'Alternatiba, de tout ce mouvement alternatif que nous avons eu notamment le 12 septembre à Évreux. Ce qui m'amène très directement, et tu l'as initié il y a quelques secondes, Lélie, juste avant la pause musicale, sur ces notions de localité. Nous parlons là depuis le début de cette émission de la planète, d'ailleurs avec cette idée que ce n'était pas la planète que nous étions en train de sauver, mais plutôt l'humanité qui y vivait, et puis bien entendu bien d'autres espèces entre deux. Mais je voulais revenir sur cette notion de localité, des échelles plus proche de nous, plus concrète finalement, parce que quand on nous parle de planète, eh ben on pourrait avoir les bras qui tombent et nous dire bah qu'est-ce que je peux faire moi pour la planète, de toute façon c'est tellement vaste, il y a tellement de monde, ça me décourage. Mais finalement il y a d'autres échelles peut-être de raisonnement, d'autres échelles d'action, d'autres échelles avec des leviers particuliers et qui sont notamment nos échelles de proximité, à savoir les échelles régionales, départementales, locales. Et y a-t-il des actions, des leviers sur ces échelles-là? Robin Branchu, éventuellement, c'est en plus une question qui vous tient particulièrement à cœur, ces localités.
Oui, sachant que l'association Heure en Transition est également membre du collectif. Et Clément,
je vous proposais peut-être de prendre un autre micro qui a un plus joli son. Je me permets qu'on puisse couper
là,
le
ça
HF.
Va, j'ai une meilleure voix,
vous avez une bien meilleure voix.
Donc l'association Heure en Transition est également membre du collectif. Clément aussi, en fait, tous les gens autour de cette table sont membres individuellement ou par leur association du collectif pour une transition citoyenne à Évreux. Alors, pour faire bref, en fait, on peut très rapidement arrêter tout recours au gaz à effet de serre, absorber les gaz à effet de serre en excès et retrouver un mode de vie que l'on pourrait dire qu'on a connu pendant des millénaires, parce qu'en fait, la parenthèse des énergies fossiles aura été hyper courte. Si on regarde une courbe sur quelques millénaires, ce sera vraiment une parenthèse hyper courte. Donc comment faire pour recréer ce monde sans énergie?
Ça veut dire vivre à l'ancienne, j'ai envie de dire. Non, c'est ça. On n'est pas tous forcément prêts à ça, quand on a connu le confort de la vie moderne.
Il y a deux arguments. Il y a soit lutter contre le réchauffement climatique, on devrait le faire, soit franchir le pic de production des énergies fossiles, et là, on devra le faire. On
ça veut dire quoi, franchir le pic? Alors, pour le coup, j'ai besoin d'éclaircissement. Franchir le pic...
Ça veut dire que les énergies fossiles, toutes les énergies fossiles, à un moment donné, vont se tarir.
Oui.
Alors, évidemment, il y a plein de gens qui disent « c'est pas vrai, on aura tout le temps », etc. Mais c'est, d'une part, c'est une vue de l'esprit, et d'autre part, si on va au bout de ces consommation, on va se brûler. Le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui, en général, quand on parle des générations futures, moi, je sors mon majeur, parce que c'est quelque chose qui est effroyable, qui arrive, et on n'en mesure pas du tout les conséquences dans les décennies qui viennent. Donc, on n'aura pas le choix, parce qu'on va manquer d'énergie fossile, et il faut absolument le faire sans attendre, parce que sinon, on va se brûler à cause du réchauffement climatique. Donc, comment le faire, puisque c'était là mon propos? C'est d'abord en plantant des forêts comestibles partout, puisqu'on produit de la nourriture en volume. Une forêt comestible, c'est une forêt dans laquelle 100% de ce qui est planté se mange, du légume racine aux arbres fruitiers.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut l'entretenir? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une action on doit s'en occuper? Parce que moi, je ne sais pas le faire. Hein.
Est-ce qu'on entretient nos forêts? Non, une forêt, c'est un climax qui s'entretient tout seul. Donc une forêt comestible plantée à 100% de choses comestibles, a priori, il y a très très peu d'entretien.
Mais alors, on la plante où? Je me permets, est-ce qu'on rase les forêts existantes pour les planter
là? Non, évidemment non.
Du coup, on touche à l'habitat? Est-ce qu'on touche à nos espaces déjà existants?
Non.
Enfin, je me permets d'être peut un peu chiant sur ces questions-là.
On
mais
peut
c'est...
planter des forêts comestibles sur les terrains actuels des agriculteurs conventionnels avec des partenariats de conventionnement avec eux dans lesquels ils vont s'y retrouver. Eux, ils vont continuer à produire avec une action concertée des collectifs citoyens locaux. Et il suffit de trouver quelques agriculteurs volontaires pour expérimenter le truc, sachant que ça existe déjà. Il y a plein de forêts comestibles sur mon blog Gorge Rouge. Je compile tout ce que je trouve sur cette thématique. Et rien qu'en France, il y a cinq... Je dis des bêtises, il y a plein de forêts d'expérimentation, autant en France qu'à l'étranger. Quoi.
Alors autant sur la notion d'expérimentation, j'entends le fonctionnement, mais je ne suis pas prêt, par exemple, personnellement, à me dire « Allez, je vais aller faire mon marché dans la forêt, par exemple. Enfin, » Des habitudes de vie, tout simplement, parce que si on met en place... ça va forcément avec un changement de civilisation, presque. Enfin, j'ai envie de dire, c'est presque un changement de civilisation qu'on a à travers... parce qu'on ne peut pas avoir ce fonctionnement-là unique. Je ne peux pas continuer à travailler le bon. Enfin, je me permets, hein, après, vous me contesterez sûrement, mais je ne peux pas me permettre de travailler mon emploi que j'ai actuellement, enfin, comme mon rythme de vie que j'ai aujourd'hui, en me disant je vais récupérer mon alimentation. J'ai du mal à l'imaginer. Si derrière, on remet une boucle type supermarché pour aller récolter, voyez, enfin, le système où ça va être quelqu'un d'autre qui va le récolter pour pouvoir le mettre en vente et tout, finalement on sort pas du circuit de transport et compagnie. Ça ne fonctionne que si je vais moi-même récolter ce que je mange.
J'ai
un changement de vie forcément à intégrer à ça.
Ma balise, ce sont les sociétés traditionnelles et artisanales qui vivaient avant les énergies fossiles. Comment faisaient-elles? Elles y arrivaient, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. D'autre part, si on
non, mais par la contrainte, je veux... Pardon, excusez-moi, non, mais vraiment, je...
Toi, tu vas te noyer dans tes problèmes, tu n'auras jamais les solutions.
Non, complètement pas. C'est je veux les rendre accessibles. J'entends la chose, mais ça veut dire que... Ah, d'accord. Mais sur ce système-là, ça veut dire que ce n'est pas seulement arriver sur une forêt comestible ou des systèmes d'alimentation, c'est revoir l'intégralité d'un mode de vie. Et il faut accepter... Je ne vais pas dire d'aller en arrière parce que je n'ai jamais connu ce temps-là, pour le coup, donc ce serait aller en avant quand même, même si on allait sur autre chose. Mais c'est accepter collectivement et ça demande la complicité de tout le monde. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est une société, c'est une civilisation même. Hein, allons jusqu'au bout du truc, c'est une civilisation qui doit changer, non?
Oui.
Mais alors, du
coup. T'as mis trois plombes à dire que c'était infaisable.
Non, je ne veux pas dire que c'est infaisable. Attention, je veux en tirer les ressorts. C'est un changement de civilisation.
Oui.
D'accord. Alors, quand on a du mal à se mettre d'accord, par exemple, sur les trois... Mais du coup, ce que je suis en train de voir, c'est est-ce qu'il y a des solutions... est-ce qu'on est obligé de passer tout à tout d'un seul coup? Est-ce qu'au bout d'un moment, ça se passe dans la douceur? Non, pas obligé, pardon. Ce type de solution, est-ce qu'elles peuvent se passer en transition tranquille? Oui. C'est-à-dire que mes enfants commenceront un petit peu chercher des choses, mes arrière-petits-enfants commenceront à avoir une alimentation régulière. Est-ce qu'on est dans cet ordre d'idées-là ou on est sur un truc brutal?
Non, on est dans les deux. On ne sait pas comment ça va se faire. Il y aura peut-être un effondrement brutal. On va peut-être réussir à faire une transition vers l'après-pétrole et non pas une transition énergétique en douceur parce qu'on arrivera à s'y préparer. On ne sait pas. Personne ne peut savoir aujourd'hui. Donc, mais ce qui m'intéresse, moi, ce sont les solutions. Et là, depuis tout à l'heure, tu es resté sur les problèmes. Donc, les solutions, forêt nourricière, OK? Derrière, production artisanale en concertation sous forme de chantier participatif, collectif, pour une autoconsommation directe en local, même si l'économie s'effondre, on peut continuer à consommer nos biens de consommation produits en local. Et là, on a une solution immédiate à la COP21. Sauf que ceux qui sont à la COP21, s'ils prenaient ce type de décision, ils allaient contre la croissance, les dogmes économiques, etc. C'est pas possible d'attendre ça de eux. Mais nous, en local, on peut faire ça. Et pour moi, l'enjeu, il est là. Donc après, évidemment, je vais dire un centième de ce que je pourrais raconter. Pour l'essentiel, après, il faut aller voir mon blog Gorge Rouge en un seul mot sur Internet et vous tombez sur mon blog.
Mais là, ça demande quand même... Enfin, je me permets de revenir sur ce thème, c'est carrément un changement de civilisation. Et du coup, un changement de civilisation, bah, ça demande forcément que chacun y participe. Et sans vouloir être défaitiste, et c'est loin de mon idée, c'est-à-dire que sans vouloir être défaitiste, on a déjà du mal à s'accorder sur certains éléments, j'ai envie de dire, abordables. Notamment, là, j'entends par exemple des solutions autour du transport collectif, qui est déjà un premier élément, par exemple, sur les émissions à effet de serre, qu'on pourrait se dire, ça, c'est facile à mettre en place, c'est des réseaux de bus sur des villes Et déjà, malgré ça, on a beaucoup de mal à le mettre en place dans nos habitudes de vie. Alors j'imagine des changements aussi radicaux. Comment est-ce qu'on peut y accéder quand les premiers changements mineurs de vie sont difficiles à mettre en place ? Voilà, je ne sais pas si quelqu'un
c'est,
veut...
C'est toute l'ambition de la transition énergétique, en fait. Et là, on est un collectif, Robin en fait partie, et effectivement, on a souvent des discussions, des débats autour des actes prioritaires ou de ce qu'on veut. Bon, donc Robin vient d'exposer son objet. Ceci étant, puisqu'on est dans une MJC où il y a de l'éducation populaire, je pense qu'effectivement, il faut retrouver une éducation aux pratiques écologiques. Et ça me paraît essentiel. Aujourd'hui, c'est pas assez développé, et tout à chacun, des associations, mais aussi des individuels, peut en prendre conscience, et puis se mobiliser pour qu'il y ait une transition qui se fasse, en commençant par l'individu. Nous-mêmes, si on regarde bien notre mode de vie, eh bien, on a certainement des choses à changer, et ça demande d'avoir de se contraindre à se dire qu'aujourd'hui on fait comme ça, demain on va faire autrement.
Alors du coup, je relève à travers ce que vous dites, Dominique, c'est qu'en fait, vos collectifs qui vont dans le même sens globalement, malgré tout ça, ça crée du débat, ça crée de l'échange, ça crée justement de la diversité de vision.
Oui, et là ça me permet de dire que nous expérimentons quelque chose qui me paraît indispensable, c'est-à-dire qu'on est tous différents. On a des pensées différentes, on a des cultures différentes, enfin des cultures. Et nous expérimentons au sein de ce collectif là, une coopération que, pour ma part, si j'ai un petit peu de recul sur l'associatif ou autre, que je trouve très intéressante. Et ça, c'est absolument indispensable. On en aura besoin tout le temps. Parce que, effectivement, si on est confronté à des événements qui peuvent être très graves, on aura besoin de cette solidarité, de cette coopération. Ça, c'est déjà une première chose. Et deuxième chose, je pense que c'est une transition plus qu'énergétique, enfin une transition citoyenne. Ça veut dire que c'est le citoyen qui doit reprendre la main. Et ce n'est pas l'individu, c'est le citoyen. On oublie qu'on est citoyen. C'est-à-dire que quand on va acheter au supermarché parce qu'on veut faire une super fête ou je ne sais pas quoi, on va acheter des pommes en juillet qui viennent du Chili. C'est intéressant quand on est en Normandie. Bon, etc., etc. Et là, ça, c'est des choses toutes bêtes. Alors, ça ne va pas changer du jour au lendemain. Je suis bien d'accord que ça ne suffit pas. Mais n'empêche que c'est indispensable aussi.
C'était un peu l'objet de la question qu'évoquait Lily tout à l'heure.
La consommation... Ah ben j'en perds mes mots.
C'est pas grave, cherchez-les.
Si voilà, c'est pas grave.
Mais responsable, oui, voilà, responsable, bien joué, merci Robin.
Je vois dans mon immeuble un exemple tout bête. En journée, il y a des habitants de l'immeuble qui appuient sur l'interrupteur pour avoir de la lumière, alors qu'on a des baies vitrées à chaque niveau d'étage. C'est quand même étonnant, ça.
Et il n'y a pas de détecteur de présence pour allumer les lumières la nuit ?
Il n'y a pas de détecteur... Non, il n'y a pas de détecteur de présence. C'est un bouton.
On l'a fait manuellement, sa détection.
Il y a une temporisation, mais il n'y a pas de détecteur de présence. Mais il y a quand même des gens qui, je ne sais pas, par habitude, systématiquement, appuient sur l'interrupteur en plein jour.
Oui, Clément.
Ouais, je vais être bref. Ça va être l'idée. Je t'en passe. C'est un peu compliqué, ces questions de ramener les choses au niveau local, parce que c'est tellement vaste, en fait. Il y a tellement de choses possibles. Et donc, effectivement, il ne faut pas croire que ça se résume à un interrupteur, même si ça en fait partie, c'est vachement important. Mais, non, mais c'est vrai.
Non, mais ça se résume aussi au circuit court. Ouais. Tout à l'heure, Robin Brochu évoquait les forêts comestibles, mais il y a également les AMAP qui existent, qui sont peut-être la solution juste avant, qui sont en tout cas la proximité entre le producteur, le consommateur. Les AMAP, il y en a sur Évreux, il y en a dans toutes les villes, il y en a même dans les campagnes. Voilà, c'est ça. Ça, par exemple, ça peut être un premier élément de...
Bah, ça fait partie, pour moi, d'un processus de prise de conscience qui peut évidemment pas se faire du jour au lendemain et qui va forcément... C'est pour ça qu'on parle aussi de transition, même si on connaît pas sa durée, mais ça, c'est un processus qui prend du temps et qui, selon les personnes, va prendre plus de temps que d'autres. Voilà. Et donc... se rendre compte que sur tous les sujets, en fait, notre action a forcément un impact au niveau global. Quand on achète, on est bien d'accord pour dire ok, les industriels doivent faire des efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais quand on va acheter un pot de Nutella ou ne serait-ce que je ne sais pas quoi d'autre en supermarché, il faut savoir que tant qu'on ira l'acheter, il y aura toujours un industriel pour le produire. Et que lui, il émettra. Et que de toute façon, tant qu'il y aura des consommateurs pour acheter les produits les plus impactants, il y aura des industries pour les fabriquer derrière. Tant que, je prends un autre exemple aussi, on a tous une banque, on doit tous gérer notre argent. Est-ce qu'on se pose la question de où va notre argent, comment il est utilisé derrière? Et si, en regardant un peu, on se rend compte que la majorité des banques qu'on a en France et ailleurs dans le monde aussi investissent dans ces énergies fossiles et dans ces gros projets des multinationales. Et si on veut que ces choses-là arrêtent aussi, arrêtons d'injecter de l'argent dedans. Et donc, en plaçant notre argent dans des banques qui vont avoir un regard là-dessus, qui vont vraiment choisir leurs investissements.
Et il en existe là aussi. Je me permets d'insister, c'est qu'il en existe des banques qui fonctionnent autrement.
Il existe des solutions sur quasiment tous les sujets. Simplement, l'information n'est pas toujours simple à aller chercher. Il y a un petit effort. Et nous, ce qu'on souhaite faire aussi au travers du collectif, à travers l'Alternativa, c'est de montrer que c'est très accessible finalement.
Et donc ça, je me permets, c'est du lever au coucher. Toute notre consommation, toute notre vie, en fait, peut être un choix orienté. Je m'habille, d'où viennent mes vêtements? Est-ce que je suis en train de valoriser un circuit textile, par exemple?
Est-ce que je suis en train de chier dans l'eau potable?
Non, mais complètement. Est-ce que les produits que j'ai achetés, d'une, par rapport aux produits utilisés, là, je pense par exemple aux produits de santé, d'hygiène, est-ce que voilà, ce que je rejette dans mes égouts, c'est quelque chose qui est acceptable ou pas? Est-ce qu'il y a des solutions alternatives? Est-ce que je peux... Voilà, ça va à tous les éléments. Comment je me déplace pour aller au boulot? Comment tout le matériel que j'achète, comment je fonctionne? Tout peut être interrogé, en tout cas.
Même pendant ces périodes-là où justement il fait assez froid, on a tendance à monter le chauffage, allumer plus de lumière avec la journée qui raccourcit. Donc tout ça, c'est aussi une. On peut y renverser la vapeur.
Oh, bien joué. Il nous reste 4 minutes devant nous, je me permets. Il nous reste 4 minutes devant nous, je vais vous proposer 2-3 questions à y répondre de manière quasi instinctive, rapide. Il y a une idée comme quoi la science viendra à notre secours.
Non. oui, il y a une idée.
Non, mais on peut dire, on peut aller jusqu'au bout. La science, de toute façon, on progresse, ça viendra à notre secours.
Il y a plusieurs choses. Il y a les énergies. Déjà, on va chercher les énergies le plus loin. C'est-à-dire que, au fur et à mesure où le pétrole augmente, en l'occurrence, en ce moment, il diminue, mais il réaugmentera. De toute façon, c'est inéluctable. On va le chercher dans les schistes, les couches de schiste. Donc, c'est le gaz de schiste, le pétrole de schiste. On va le chercher dans l'Arctique, etc. Donc, on va tout prendre. Il y a aussi des solutions en termes de production d'énergie. Par exemple, je pense au nucléaire, où on nous promet des solutions avec notamment la fusion, le projet ITER à côté de Marseille, qui est en cours de développement, où on injecte des milliards et des milliards avec plein de pays qui participent à ce projet-là, on n'est absolument pas sûr que ça puisse donner quelque chose. Et c'est même plutôt pour l'instant, peut-être que dans 50 ou 80 ans on arrivera à voir ça, mais ce sera sans doute trop tard. Et puis il y a pas mal de solutions aussi que des scientifiques développent, financées bien souvent par des grands groupes énergétiques, pour capter le CO2. Et des solutions assez les plus
abracadabrantesques. Voilà. Ça, c'est Monsieur Chirac qui l'avait.
Les unes que les autres et qui vont coûter des milliards. Et on va essayer, par exemple, de reproduire l'effet des volcans pour faire un voile gris pour bloquer les. Enfin, il y a des trucs hallucinants. Renseignez-vous sur la géo-ingénierie. C'est même marrant, je trouve. Moi, je me suis assez marré de voir des vidéos là-dessus.
On est peut-être parfois au bord de la science-fiction. Pardon, je me permets de couper tout le monde. Il nous reste 1 minute 30 maintenant. Est-ce que l'éducation est une des solutions? Est-ce que c'est nos mômes qui sont la venir et la solution?
Oui,
ou est-ce que c'est la nôtre ou pas?
Oui, 3 fois oui.
Ouais. C'est tout à la fois.
Exactement. En fait, il y a beaucoup trop de sujets.
Et moi, je peux vous inviter au 24 janvier.
C'était la transition de juste après. Laurence Flichy, les énergies d'Alternativa, il en reste quoi aujourd'hui? Vous me grillez l'effet de manche là. Les énergies d'Alternativa, il en reste quoi? Vous avez 30 secondes ou 40 secondes pour nous en parler.
Eh bien, le collectif pour une transition citoyenne qui a organisé Alternativa continue son action et invite le 24 janvier, donc c'est dimanche prochain, nous avons une journée de travail pour savoir ce que nous allons faire après pour continuer l'action.
À la Maison de l'Enfant et des Découvertes.
À partir de 9h30, ouverture vraiment à 10h jusqu'à 17h, repas partagé.
Et ben voilà, c'est un bon programme
merci,
pour dimanche.
Absolument.
Et ben voilà, merci beaucoup à vous d'être venus témoigner, échanger, participer, faire avancer en tout cas notre petite idée du mieux que nous pouvions en tout cas. On verra jusqu'à ce où nous amènera. Bien entendu, il aurait fallu 2 heures au moins d'émission et nous ne les avons pas eues, bien entendu.
On
même 3, 4, 5.
On en fera une autre.
Et ben voilà, merci, le rendez-vous est pris. De toute façon, nous ne sommes pas sans nous revoir parce que nous nous croisons régulièrement de toute façon à diverses occasions. Nous avions autour de la table Clément Bricchiani, vagabond de l'énergie. On peut trouver des infos sur Internet, je suppose, parce qu'on n'a pas eu le temps de présenter ce concept, mais ça mérite de creuser un petit peu, notamment à travers les réseaux sociaux. Je crois qu'on peut trouver des choses. Dominique Knokaert du collectif pour la transition citoyenne de l'heure, Laurence Flichy, l'association La Vie Nouvelle, Robin Branchu de l'association Heure en Transition. J'ai dit une bêtise, je vous vois soulever les yeux, il vous fallait une seconde pour le faire. Nous remercions l'intégralité des gens qui ont participé. Voilà, merci à vous d'être venus. Nous vous réinviterons, vous êtes bien comportés, nous vous réinviterons, bien entendu. Nous remercions la MJC et le RIF et Cédric en particulier pour cette complicité d'organisation. Merci beaucoup. Nous aurons l'occasion de recroiser le micro et de redire un tas de choses intéressantes, beaucoup moins parfois, et j'espère qu'on en rira. Voilà. Nous, le prochain rendez-vous, ben, nous ne savons pas encore. Il va falloir qu'on débriefe un petit peu tout ça pour savoir quand est-ce qu'on vous retrouve. Au micro avec moi, nous avions Lily. C'était un plaisir de partager le micro avec toi.
Également, merci.
Et puis nous avions le magnifique, le magique, que dis-je, l'exceptionnel, Monsieur Pignon. Allez, restez à l'écoute, c'est une Daryl juste derrière.
Vous êtes bien sur Principe Actif 102.4 FM.